Quand ma grand-mère était jeune, elle était pianiste dans les cinémas muets. Quand mon grand-père était jeune, il était chanteur d'opérette. Mon arrière-grand-père a acquis, une fois aux enchères, le piano de Balzac. Ce qui explique déjà le goût pour la musique. À la maison, il y avait souvent des personnes qui venaient dîner le soir, des gens de passage. Et notamment, il y avait un prêtre, à l'époque c'était la Haute Volta, il s'appelait le Père Somda. Et le Père Somda nous racontait ses aventures. Donc voilà, la musique, le voyage, ce sont deux éléments qui expliquent en partie pourquoi je suis devenu d'abord musicologue. Mais c'est pas, ça s'est pas fait non plus aussi simplement comme ça, hein, parce que au CNRS ou dans le monde académique, on a tous des parcours souvent un peu atypiques. C'est-à-dire, on est souvent parti sur le terrain, à la rencontre de l'autre, à apprendre des langues, à découvrir des paysages, des cultures, des musiques. On a été rattrapé finalement par le monde académique, parce que la somme de tout ceci fait que nous sommes des gens qui avons l'expérience du terrain. Le terrain, l'empirisme sont à la base de nos passions. Et dans mon cas, effectivement, la musicologie.
Expliquez-nous un peu ce que c'est que l'ethnomusicologie. Vous cherchez quoi à travers la musique?
Quand j'étais étudiant en musicologie dans mon université, l'ethnomusicologie, c'était en fait 80% des musiques qu'on n'enseignait pas en musicologie. L'ethnomusicologie est une discipline qui a maintenant une centaine d'années, avec des archives. Et il est vrai que les premiers, en tout cas pour les Européens et les Français, les premiers travaux de terrain, c'est évidemment l'Afrique. Donc des musiques de tradition orale. Et ceci ne faisait pas partie des cursus de musicologie, où l'enseignement est destiné à la musique savante occidentale. Mais l'ethnomusicologie, c'est aussi pas uniquement des musiques de tradition orale, c'est aussi des musiques savantes. Évidemment, les grandes traditions d'Asie, musique savante chinoise, musique savante arabe. Et donc, il me manquait quelque chose dans ma formation. Et comme il n'y avait pas d'ethnomusicologie à l'époque dans mon université, la seule possibilité, c'était de monter à Paris. Et finalement, je ne suis pas monté à Paris, j'ai fait ma valise et je suis parti en Israël.
Alors, pourquoi ce choix de la Méditerranée? Pourquoi ce choix d'Israël? Pourquoi ce choix aussi après de l'Éthiopie? Qu'est-ce qui vous a mis sur cette route?
Il y a une expression du rabbi Nachman de Breslau. Et cette expression, elle dit, et surtout, ne demande jamais ta route à quelqu'un, tu risquerais de ne jamais pouvoir te perdre. Évidemment que j'ai été aidé sur ma route par des milliers de gens. Je suis parti de rien, je suis arrivé nulle part. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, c'est le fruit de hasards de la vie, de rencontres, qui font que un jour, vous arrivez en Israël, au début des années 80, et vous avez un choc. Le choc, c'est vous êtes dans un tout petit pays dans lequel vous avez une grande partie des cultures du monde. Et évidemment, les cultures religieuses. Je veux dire, c'est évidemment, c'est incontournable. J'ai eu ce choc, je me suis senti bien. Et je pense que ça, c'est un des critères les plus forts du voyageur. Et il y a d'autres contrées dans le monde où je suis allé, où j'ai plus de difficultés. La Méditerranée, c'est un espace qui me parle. L'Éthiopie, c'est devenu par hasard. J'avais prévu de faire une thèse sur les Bédouins du Négev et du Sinaï, parce que j'aimais ces espaces. Et finalement, le hasard a fait que j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon maître, Simcha Arom, une des grandes figures de l'ethnomusicologie mondiale, qui est spécialiste notamment de musique de Centrafrique. Et à l'époque, j'avais appris l'hébreu, et je me suis inscrit à l'université. J'avais une maîtrise de musicologie en France, et je me suis inscrit à l'université de Tel Aviv en musicologie, et à l'Académie de musique, qui était dans le même bâtiment. J'ai appris là-bas notamment l'histoire des musiques juives, parce que la musique juive n'existe plus. Les musicologues israéliens ont eu un fantasme pendant des décennies de retrouver la musique du temple, à travers l'analyse des chants des juifs polonais, des juifs yéménites, etc. Or, vous allez dans une synagogue polonaise, vous allez dans une synagogue yéménite, vous ne trouvez rien de commun. Donc il faut faire le deuil de ce fantasme, la musique du temple a disparu.
Et donc ça a été l'objectif d'Israël et d'Éthiopie, retrouver l'essence, l'origine de la musique juive?
Au départ, j'étais un jeune étudiant, donc on était encore dans ce fantasme. Mais très rapidement, je suis passé à autre chose. Le hasard a fait que je rencontre Simcha Arom pour un séminaire d'ethnomusicologie et j'ai eu un enchantement. Je cherchais un maître et je l'ai trouvé. Et à la fin du séminaire, au bout d'un mois, il me dit « Vous êtes un drôle de chrétien, vous parlez hébreu couramment, on croirait que vous êtes israélien. Et moi, je connais des juifs pas très catholiques qui sont des juifs d'Éthiopie. » J'ai pour projet d'enregistrer ces chants, parce que le judaïsme éthiopien est tellement atypique, tellement éloigné du judaïsme normatif, qu'il va disparaître en Israël. Et donc, il me dit, moi je vous propose de faire une thèse sur ce sujet avec moi. Ce travail, c'est un projet en association avec l'Université hébraïque de Jérusalem et le Centre de recherche français à Jérusalem. Donc j'étais tout jeune étudiant et jamais j'aurais pensé que moins de 20 ans après, j'en deviendrais le directeur.
Donc vous êtes devenu le directeur de ce centre de recherche avec cette thèse, avec cette habilitation pour diriger des études sur l'origine de la musique juive en Éthiopie.
Alors en fait, c'est en Israël que j'ai fait ce qu'on appelle le travail de terrain auprès des prêtres juifs éthiopiens, faire des enquêtes. Et un des objets de l'étude de l'ethnomusicologue, c'est comprendre comment ça marche, comprendre ces musiques, comment elles marchent. Ce sont des musiques qui ne sont pas théorisées, qui ne sont pas verbalisées. Et donc c'est à vous, avec vos informateurs, d'essayer de comprendre comment ça marche. Quand il s'agit de demander la forme, que j'ai un soliste et un chœur qui alternent, c'est facile à expliquer. Mais quand vous voulez travailler sur le système mélodique ou, sur le système scalaire, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Mon travail m'a conduit à faire une systématique de comprendre le système juif éthiopien. Et à partir de là, sachant que j'avais travaillé en Israël, j'ai voulu comprendre, entendre ce qui se passait dans les régions d'où venaient ces communautés juives qui sont toutes parties en Israël. Officiellement, en 1999, il n'y avait plus de juifs éthiopiens en Éthiopie. Donc je suis parti en Éthiopie et c'est là que j'ai commencé à travailler avec la tradition chrétienne d'Éthiopie. C'est là que j'ai commencé à travailler aussi avec la tradition soufie musulmane de la région de Gondar. Et j'ai travaillé avec des populations animistes. Et donc j'ai fait le même travail d'analyse comparée. Sans m'en rendre compte, petit à petit, j'avais suffisamment d'éléments pour comprendre un peu mieux l'histoire de ces communautés via l'analyse musicale. C'est-à-dire contribuer à la compréhension de l'histoire de ces populations via l'ethnomusicologie.
À travers la musique. Quelles ont été vos découvertes ?
Chez les chrétiens d'Éthiopie, la tradition repose sur trois échelles, c'est-à-dire, pour aller vite, trois gammes. La première gamme, ça s'appelle Gez, elle incarne le père. La deuxième, c'est Ezel, elle incarne le fils. Et la troisième, ça s'appelle Araraï, elle incarne le Saint-Esprit. La difficulté, c'est que si pour le musicologue, le musicien, on arrive à identifier la première, c'est-à-dire le père, qui est une échelle qui est plutôt tritonée, qui reposait sur trois tons, qui est très identifiable. Les deux autres échelles sont des échelles pentatoniques. Anémitonique, c'est pour les spécialistes, mais c'est-à-dire pentatonique qui repose sur cinq sons à l'intérieur d'un octave. Quand vous entendez les deux type d'échelle, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez le sentiment que c'est la même chose. Et depuis Guillaume Villotto, la campagne napoléonienne d'Égypte, se pose la question, mais qu'est-ce qui caractérise l'un et l'autre ? Et donc c'est une question qui peut paraître triviale pour le commun des mortels, mais qui a motivé des travaux d'Italiens, d'Anglais, d'Américains, et je me suis attelé moi-même. Et si on s'en tient uniquement aux critères vernaculaires en disant bah, « tu n'entends pas, ça c'est plus gay, c'est plus triste, c'est plus des termes qu'on ne peut pas quantifier ni maîtriser », j'ai fait une analyse acoustique, j'ai trouvé la solution. Et donc il s'avère que le fils est effectivement une échelle pentatonique, 5 tons, anémitonique sans la présence d'un demi-ton, qui est une échelle assez universelle en Afrique, mais pas uniquement, aussi en Occident, en Asie, etc. C'est une échelle la plus commune. Et le Saint-Esprit, l'analyse acoustique démontre, et là vous sortez le champagne parce que c'est un grand bonheur, vous démontre que c'est une échelle pentatonique, donc 5 tons, mais équipentatonique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'octave, les 5 tons sont divisés à intervalles égaux. Ce qui fait que pour une oreille occidentale, mais même les grands spécialistes éthiopiens n'avaient pas trouvé la solution, c'est que finalement, l'échelle du Saint-Esprit, c'est une échelle parfaite. C'est une échelle qui divise l'octave en 5 parties égales. Et c'est l'échelle que, dans beaucoup de populations africaines, on essaye de tendre vers, de se rapprocher vers, parce que c'est la plus universelle. Ça, c'est ce genre de petites découvertes personnelles qui vous font plaisir.
Olivier Tourny, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Jusqu'à présent, j'avais deux pôles d'attraction. J'avais Jérusalem, Israël, la Terre Sainte, deuxième pôle, l'Éthiopie. Et en venant à Rome pendant ces 2 années, j'ai découvert que j'avais une troisième maison. Je vais revenir.
Merci Olivier Tourny.
Merci à vous.